Le parc naturel régional du Massif des Bauges est sur Radio Alto. Si pour vous le mot urbanisme n'évoque que le permis que vous allez poser pour votre extension ou la piscine que vous souhaitez creuser, et que paysage, bah, ce sont les arbres que vous avez devant les yeux, on va peut-être soulever deux trois choses aujourd'hui dans cette émission, puisque je reçois Romane Girard, qui est chargée de mission urbanisme et paysage au PNR du Massif des Bauges. Bonjour Romane.
Bonjour Marion.
Alors, avant qu'on évoque justement les missions que tu effectues au sein du parc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif sur l'urbanisme ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, effectivement, l'urbanisme, c'est plus vaste que la simple question du permis de construire que chacun va déposer avant de faire une extension ou même de construire sa maison. L'ensemble des démarches de réflexion, d'écriture et de réglementation qui permettent ensuite aux particuliers, mais aussi aux collectivités, d'avoir des projets d'aménagement, de construction et d'urbanisation. Donc c'est régi par le Code de l'urbanisme, qui est la réglementation nationale. Et ensuite, c'est décliné dans tout un tas de documents à différentes échelles qui vont permettre de préciser ce contexte national jusqu'à l'échelle locale par le biais des PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont maintenant de plus en plus souvent des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, donc à l'échelle de plusieurs communes.
Alors là, on est parti du plan plutôt très local, qui est celui du PLU, au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. Si on repart de tout là-haut, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différentes organisations du territoire ?
Alors, donc à l'échelle nationale, ça va être plutôt donc, le code de l'urbanisme. Ensuite, on va avoir une réglementation à l'échelle régionale, par exemple, donc par un document qui s'appelle le SRADET. Donc, en urbanisme, il faut savoir qu'on a énormément d'acronymes. Pour chaque document, on va avoir un enchaînement de lettres qui sont plus ou moins lisibles. Mais voilà, c'est un peu le jeu de l'urbanisme. À l'échelle régionale, on a le SRADET qui donne des orientations, des grands objectifs, mais qui ne sont pas lisibles pour être déclinés, par exemple, dans un projet de construction. C'est des enjeux qui sont beaucoup plus vastes sur les consommations de ressources, des objectifs de consommation ou de non-consommation d'espaces naturels, par exemple, ou encore des objectifs de développement des énergies renouvelables, ce genre de choses. Et ensuite, ça va être décliné à une échelle plus locale, qui est le SCOT, donc c'est le schéma de cohérence territoriale. Lui, il est porté donc non pas par la région, mais par ce qu'on appelle des syndicats de SCOT. Donc c'est un regroupement de personnes et de collectivités qui ont un lien à un territoire particulier et qui donc vont reprendre ces orientations du SRADET, de la région, pour les décliner un petit peu plus précisément à l'échelle de leur territoire, qu'on appelle souvent pays. Donc c'est pas le même pays que la France, mais c'est l'idée d'un bassin de vie, d'une échelle un petit peu plus locale dans laquelle on prend des orientations de plus en plus précises. Et donc, en dessous ce SCOT vont se trouver, ce dont on a parlé tout à l'heure, les PLU, PLUI à l'échelle des communes ou des intercommunalités.
Donc l'idée du PLU ou du PLUI, c'est de rendre très concret des schémas plus globaux pour qu'on ait en clair un mode d'emploi pour savoir comment on construit.
Exactement. L'idée, c'est dans le PLUI d'avoir des règles qui sont très précises avec des hauteurs autorisées en nombre de mètres, des distances à la voirie ou aux constructions voisines, des pentes pour les toitures, vraiment des choses très concrètes qui permettent à un architecte de concevoir un permis de construire, des plans de construction, tout en étant dans la réglementation. Et donc ce sont des choses qui sont plus précises que les objectifs stratégiques des autres documents, mais qui sont lisibles et qui sont concrètes et qui, bien sûr, vont s'inscrire dans les objectifs stratégiques des documents dont elles dépendent. Et donc, pour décliner ces objectifs de l'échelle très large à l'échelle locale, on applique ce qui s'appelle la hiérarchie des normes. Donc, ça veut dire qu'un SCOT va être conforme à un SRADET régional, un PLUI va être conforme à un SCOT, et ainsi de suite.
Et alors, pourquoi toutes ces règles d'urbanisme? Pourquoi on ne peut pas construire notre maison comme on aurait envie?
Alors, l'idée des règles d'urbanisme, c'est que même si tout un chacun est très bien intentionné, on a tous nos envies l'idée, c'est qu'à l'échelle du territoire, tout ça reste cohérent. Et puis de se fixer des objectifs qui prennent en compte l'avenir aussi. Donc, si chacun construisait sa maison sur son terrain, se construisait une piscine ou s'installait sur un ancien champ, on pourrait imaginer, c'est un avenir un petit peu sombre, mais que l'agriculture serait amenée à disparaître au profit des habitations. Donc ça, c'est le genre de scénario catastrophe qu'on veut éviter avec la planification, donc qui est en fait la vision à long terme de l'urbanisme. Et donc c'est pour ça qu'on met des règles qui laissent quand même une certaine latitude à tout un chacun, mais qui permettent de cadrer les constructions ou les aménagements quand on a une échelle un petit peu plus large, pour prendre en compte les ressources qui sont disponibles, que ce soit les surfaces, le foncier, mais que ce soit aussi les matériaux qu'on utilise pour construire, la façon dont on construit en harmonie aussi avec le site sur lequel on habite, tout ce genre de choses.
Donc si je comprends bien, et ce que va faire le PLU, c'est pas uniquement de donner un mode d'emploi pour la construction, c'est comment ça va s'organiser aussi avec toutes les activités du territoire?
Exactement, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs documents dans un PLU. Il y a cette partie réglementaire dont on a déjà parlé, la partie cartographique qui permet à chacun de regarder, voilà, moi, mon terrain est aux 12 rue Saint-Pierre, ça veut dire que je suis dans tel zonage et que j'ai le droit de faire telle chose. Mais il y a aussi un rapport de présentation et des documents d'orientation qui expliquent pourquoi toutes ces réglementations, quel est le but de ces orientations, quelle est la stratégie de la commune ou de l'intercommunalité en termes de développement. Et donc, on ne va pas parler uniquement de construction et de maison dans un PLU, mais on va aussi parler de transport, de développement économique, de tourisme, de commerce, tout ce genre de choses. Et donc, toutes ces règles doivent permettre à ces différentes thématiques, ces différentes activités, de cohabiter ensemble et de bien fonctionner ensemble, surtout.
Ça veut dire que cette vision de l'urbanisme, ce n'est pas seulement à un instant T, mais c'est bien une projection de l'envie d'un territoire?
Oui, tout à fait. C'est des règles qu'on applique à un instant T, mais pour répondre à une projection du territoire qui vise, ça va varier selon le lieu où on se trouve, mais par exemple à accueillir des nouvelles populations sur son territoire, ou qui vise à revitaliser ses commerces, ou développer son activité économique, ou bien c'est un territoire touristique, donc qui va prioriser le tourisme sur certains de ces terrains. En tout cas, c'est bien la traduction concrète et réglementaire d'un projet de territoire.
Ton poste est intitulé chargé de mission en urbanisme et paysage. Quel lien il y a entre les deux? Qu'est-ce qu'on appelle paysage maintenant qu'on a fait la définition de l'urbanisme?
Alors, le paysage, effectivement, c'est lié à l'urbanisme. C'est ce qu'on perçoit avec nos yeux et c'est aussi la résultante de ce que l'humain fait des lieux où il vit, des lieux où il travaille, des lieux où il habite. Donc, effectivement, l'urbanisme et le paysage sont très fortement liés. Bien sûr, l'urbanisme n'est pas la seule chose qui impacte le paysage. On pourrait parler des activités agricoles, forestières, parfois même des activités sportives. En fait, les activités de tout un chacun impactent le territoire sur lequel on est. Et donc, le paysage qui est la résultante que nous, on visualise, on interprète, on ressent. Donc, c'est pour ça que ces deux missions sont liées et m'ont été confiées. Et c'est aussi parce que le paysage peut être réglementé par les documents d'urbanisme d'une certaine manière. et par d'autres documents qui lui sont propres, même si c'est une notion qui est moins réglementée que l'urbanisme. En tout cas, elles sont fortement liées à la fois dans l'impact que l'un peut avoir sur l'autre et aussi dans les documents qui servent à planifier, à protéger le paysage et l'urbanisme.
Aujourd'hui, sur le territoire du parc des Bauges, on en est où de cette protection et de cette planification ? Il y a une orientation qui est donnée ?
Alors, il faut savoir que le PNR du massif des Bauges, donc c'est un label qui est obtenu et qui doit être renouvelé régulièrement et qui est notamment obtenu pour la qualité des paysages du massif des Bauges. On est PNR, mais on est aussi Géoparc mondial UNESCO, donc au titre des reliefs très caractéristiques et uniques du massif des Bauges. Donc c'est vraiment une composante très importante du parc. L'intégration du paysage dans la charte du parc est, on va dire, de plus en plus forte. On a une charte actuelle qui est en cours de révision et une future charte qui va vraiment intégrer ces notions de paysage. Pour ce faire, il faut d'abord identifier les paysages et ensuite, une fois qu'on est d'accord sur des notions communes, des perceptions qui ne sont pas forcément toutes identiques, mais en tout cas qu'on peut retranscrire sur le papier ou par le biais d'images. Là, on peut aussi, du coup, formuler des préconisations et des projets pour maintenir, préserver, restaurer les paysages.
Tu l'as dit tout à l'heure, certains documents d'urbanisme, le PLU ou PLUI ou les SCOT sont gérés par des intercommunalités, des communes et des pays. En quoi est-ce que le parc, il a eu son importance aussi sur cette thématique de l'urbanisme et du paysage ?
Alors, c'est vrai que l'urbanisme, c'est une thématique un peu particulière dans le fonctionnement et le rôle des parcs, puisque, de manière générale, ils n'ont pas de compétences ou de rôle réglementaire. Par contre, sur l'urbanisme, c'est une spécificité. Le parc va pouvoir émettre des recommandations, mais aussi des prescriptions d'urbanisme qui sont imposables aux SCOT. Donc, dans la hiérarchie des normes dont je vous parlais tout à l'heure, on a le SRADET qui s'impose aux SCOT, mais on va aussi avoir les chartes des parcs naturels régionaux qui vont s'imposer aux SCOT, et ces SCOT vont eux-mêmes s'imposer au PLUI. Les prescriptions qui sont formulées par le parc vont en fait se répercuter indirectement sur les documents d'urbanisme locaux.
Au-delà de cette prescription, quelles vont être les missions du parc sur cette thématique d'urbanisme et de paysage ?
Alors, les missions du parc sur l'urbanisme et le paysage, ce sont donc d'une part des missions réglementaires. Donc, on vient d'en parler, le parc émet des prescriptions dans sa charte, mais aussi à l'élaboration, à la révision, à la modification de ces différents documents d'urbanisme. Donc là, on va être personne publique associée, c'est-à-dire qu'on accompagne les collectivités pour écrire ces documents, pour y réfléchir. Et on va aussi émettre un avis avant que les documents soient validés. Donc ça, c'est la partie un peu plus réglementaire. Mais aussi, on a une démarche d'accompagnement des communes, des intercommunalités, des différents acteurs publics qui souhaitent réfléchir sur leur projet d'aménagement. Donc on va les aider à faire les études préopérationnelles. Là, on leur apporte un soutien, soit en ingénierie, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble, soit qui peut être financier dans certains cas, pour se dire, voilà, sur tel secteur, donc j'ai mon PLUI qui me permet de faire telle et telle chose, j'ai mon projet stratégique communal ou intercommunal qui est le suivant, comment je peux mettre ça en place tout en prenant en compte les questions de patrimoine, de paysage, ce genre de choses. On va aussi mettre en place des formations, plutôt pour les élus, les communes, les intercommunalités, mais qui peuvent aussi être ouvertes au grand public. On va mettre aussi en place des démarches de projet, donc par le biais du fonds d'urbanisme, puisqu'une fois qu'on a fait toutes ces études préopérationnelles, l'idée c'est aussi de réaliser les projets finalement. Donc là, on peut aussi accompagner les collectivités. Et puis, pourquoi pas accompagner aussi des initiatives citoyennes sur les thématiques du paysage ou de l'urbanisme. Donc ça, c'est plutôt pour le volet urbanisme, on va dire. Et sur le volet paysage, bien sûr, la notion d'entrée, c'est de préserver les paysages existants parfois de restaurer des paysages qui ont pu être dégradés par les activités humaines. Donc ça va se traduire par, à nouveau, ces documents stratégiques qu'on écrit, par exemple des plans paysages dans certains secteurs, où on cherche à identifier les qualités d'un site, les éléments à préserver pour que le paysage soit préservé. Et puis ça peut se traduire aussi par des actions très concrètes, par exemple replanter des vergers, restaurer des murs qui ont été dégradés, des choses vraiment très locales et très matérielles, mais qui permettent de maintenir ou de restaurer des paysages qui ont pu être abîmés. Le parc va aussi avoir un rôle à jouer sur la question de la publicité, donc, puisque c'est un élément du paysage, ou en tout cas qui peut impacter le paysage. Donc là encore, le parc a le rôle de personne publique associée, c'est-à-dire qu'on va travailler avec la collectivité compétente en matière de publicité. Donc en l'occurrence, pour l'instant, ce sont les communes, mais à l'avenir, ce seront les intercommunalités par le biais des règlements locaux de publicité intercommunaux. Donc c'est exactement le même principe que pour les PLUI, c'est un document de réglementation, mais élaboré à l'échelle de l'intercommunalité. Et donc là, de la même manière, on va travailler avec les intercommunalités et donc toutes les communes membres pour élaborer ensemble le règlement de publicité qui devra être lui aussi compatible à la charte dans laquelle on aura pu formuler des prescriptions et des orientations en matière de publicité.
Et ça, sur initiative de qui ? Qui fait appel au parc ?
Alors, ça peut être soit des initiatives directement impulsées par le parc, ça peut être, comme je le disais, des initiatives citoyennes qu'on essaye d'accompagner autant que possible, des initiatives des collectivités, vraiment, les demandes peuvent venir de partout. Parfois, on essaye aussi de mobiliser des fonds dans le cadre d'appels à projets, puisque le parc a une capacité de financement, mais qui n'est pas infinie. Et par contre, on a d'autres financeurs qui interviennent sur différents sujets, comme l'Europe, qui finance une grande partie des projets pilotés ou copilotés par le parc. Donc l'idée, c'est aussi que le parc puisse servir de porte d'entrée pour que ces financements, mais aussi ces accompagnements en ingénierie, ces opportunités, en fait, se répercutent sur le territoire.
Tout à l'heure, tu as évoqué le fonds d'urbanisme. Qu'est-ce que ça représente derrière ce mot ?
Alors, le fonds d'urbanisme, c'est un budget qui est voté annuellement et qui permet aux parcs d'accompagner les communes dans leurs réflexions. Plutôt préopérationnel, donc c'est-à-dire on se situe entre le document d'urbanisme, le PLUI, et la réalisation d'une opération. On se dit comment traduire ces règles qui sont un peu alors qui sont lisibles mais qui sont pas très concrètes en fait, qui donnent un cadre. Comment les traduire pour vraiment commencer à construire un projet, donner des intentions qui vont permettre ensuite au maître d'ouvrage de vraiment réaliser son projet, savoir où il va poser telle et telle habitation, est-ce que ce sera de l'habitat individuel ou collectif, est-ce qu'il y aura des voiries à créer, est-ce qu'il y aura des commerces à créer, des transports en commun. Donc on accompagne les communes dans ces réflexions préopérationnelles. Et donc on le fait par le biais de ce financement, mais pas que. L'idée, c'est aussi de réfléchir ensemble, de mobiliser les acteurs du territoire qui peuvent nous aider à réfléchir. Donc des architectes, des paysagistes, des urbanistes, voilà, toutes les personnes qu'on peut mobiliser pour faire un projet cohérent et qui prennent en compte les enjeux du territoire.
Est-ce que de manière concrète, tu pourrais nous donner un peu les projets sur lesquels tu travailles et les collectivités ou les personnes avec qui tu travailles en ce moment ?
Alors, il faut savoir que le fonds d'urbanisme redémarre doucement, puisque moi, j'occupe ce poste depuis octobre 2020. Et avant ça, pendant quelques mois, le poste n'était pas occupé. Donc, c'était un contexte un petit peu plus calme, surtout que les conseils municipaux viennent de se remettre en place. On est dans un contexte général un petit peu complexe. Donc là, les projets commencent à émerger. C'est les projets de mandat, en fait, tout simplement, qui commencent à se construire. Donc là, typiquement, j'ai fait des premières rencontres avec la commune du Châtelard, avec la commune d'Héry-sur-Albi, je vais rencontrer la commune de Cléry, Et donc, toutes, c'est pour mettre en œuvre une OAP, donc une orientation d'aménagement de programmation. C'est-à-dire, dans le PLUI, une petite bulle sur un secteur où on dit, voilà, à tel endroit, il va falloir construire plutôt des habitations collectives, plutôt des commerces. Et donc, comme je vous l'expliquais juste avant, comment on rend ça concret pour en faire un véritable projet.
C'est le mois de juin. Oh mon amour, je ne suis plus très loin. J'ai bien tenu 20 kilomètres au moins. Pendu derrière un char à point. Mon pays, c'est ici que j'ai grandi. Mon pays, c'est ici que je suis parti. Cette fois, je jette ma valise aux orties. Je connais ce grand cerisier où je picorais en guettant le fermier. Quand un grand doute a coupé ma faim, des petits vers blancs habitaient mon destin. La campagne, c'est ainsi que j'ai grandi. La campagne, c'est ainsi que je suis parti. Cette fois, je jette ma valise aux orties. Derrière ce champ de maïs bien mûr, je me suis soulagé d'un grand poids. Un chien errant a fait son repas. C'est surprenant, mais par ici, c'est comme ça, mon pays. C'est ici que j'ai grandi. Mon pays, c'est ici que je me marie. Cette fois, je jette ma valise aux orties.
A été évoqué tout à l'heure les actions de formation du parc. Qu'est-ce qui a pu être déjà mis en place sur cette thématique particulière de l'urbanisme et du paysage ?
Alors mon prédécesseur donc au poste urbanisme et paysage a organisé des soirées débats sur différentes thématiques. On a aussi des fiches thématiques sur différents sujets, par exemple expliciter les évolutions réglementaires dans tel ou tel domaine qui vont pouvoir impacter l'urbanisme ou présenter la démarche de projet pour guider les collectivités qui voudraient se lancer mais qui manquent peut-être un petit peu de repères ou d'exemples de choses qui se sont faites pour être inspirées. Donc ça passe par là. On fait aussi, donc en ce moment, comme on peut plus trop se rencontrer, on organise ce qu'on appelle des webinaires où on présente pour l'instant la charte que le parc est en train de d'écrire. Et à l'avenir, on présentera plus en détail chaque action de cette charte et qu'est-ce que ça implique pour les collectivités dans leur quotidien.
Dans un territoire comme les Bauges, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a une attention qui est particulière parce qu'il y a justement un patrimoine particulier qui est porté. Pourquoi on ne continue pas à construire comme on a toujours fait ? Pourquoi le parc ne met pas sous cloche son habitat ? Il y a un projet quand même de tester des nouvelles choses, même si on est sur un territoire de parc.
Oui, c'est même une des fonctions principales d'un parc, c'est donc de préserver les patrimoines naturels, culturels, bâtis, d'accompagner le développement économique et aussi de favoriser l'innovation, l'expérimentation. En fait, ce statut de parc nous permet, dans certains cas, de sortir un petit peu des clous réglementaire, de tester des choses pour voir si ça peut desservir le territoire tout en restant bien sûr dans les autres enjeux qu'on défend. Donc typiquement sur le fonds d'urbanisme, on a près de 70 communes dans le parc. Potentiellement, si toutes les communes se tournent vers le parc pour un accompagnement avec le fonds d'urbanisme, on va se poser la question de quels sont les enjeux portés par ces communes et par ces projets. Est-ce que c'est des enjeux de préservation des patrimoines? Est-ce que ce sont des projets un petit peu expérimentaux et qui peuvent ensuite servir à inspirer des collectivités? C'est ce genre de critères qu'on peut regarder et qu'on essaye toujours de porter dans chacun des projets que le parc porte.
Et en urbanisme, on disait tout à l'heure, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles qui sont établies, il y a le PLU qui donne un mode d'emploi. Quelle est la place qui reste à l'innovation ?
Justement, c'est dans le cadre de ces OAP, dans le cadre de projets portés par le parc, qu'on peut se donner cette marge pour l'innovation, pour l'expérimentation. Donc, bien sûr, on ne va pas faire des choses complètement absurdes, mais il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, qui sont en évolution sur les territoires et partout dans le monde. Et donc, on peut piocher dans ces idées, dans ces initiatives pour les tester sur le territoire. Donc, ça peut être... Par exemple, un exemple concret, ce sont les habitats multigénérationnels ou partagés. Ce sont des choses qui n'existent pas telles quelles dans les documents d'urbanisme. Ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites, mais on comprend que les gens sont un peu frileux parce qu'on n'a pas de retour d'expérience. Donc, par exemple, sur le territoire des Bauges, ce sont des choses qu'on pourrait tester, sur lesquelles on pourrait réfléchir à des montages pour que ce soit viable techniquement, financièrement, peut-être réfléchir à des financements. C'est un peu cette latitude qui nous est donnée, bien sûr sans trop s'éloigner du cadre réglementaire, parce qu'il a aussi une fonction et une raison d'être. Mais en tout cas, on a des latitudes qu'on peut se permettre de donner au projet.
Et en termes de... à la fois d'innovation et surtout de préservation du territoire, du patrimoine et des paysages. Est-ce que le parc a une fonction de témoignage ? Est-ce qu'on a une possibilité de voir quelle est l'évolution du paysage sur le territoire du parc ?
Alors le parc possède déjà en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes une forme de témoignage qui est l'inventaire du patrimoine bâti. Donc on a un chargé de mission, Jérôme Davier, qui est en charge d'alimenter l'inventaire régional du patrimoine bâti avec des photos, des descriptions textuelles et des descriptions historiques de sites qu'on considère patrimoniaux ou qui ont une valeur patrimoniale. Donc ça, c'est une forme de trace de l'histoire. Ensuite, en termes d'évolution des paysages, c'est quelque chose qu'on souhaiterait mettre en place dans les prochaines années, dans le cadre de la nouvelle charte du PNR. L'idée, c'est de mettre en place un observatoire du paysage, donc un observatoire photographique et qui soit si possible participatif, pour prendre en photo des sites, des paysages qu'on considère comme remarquables. Donc à la fois d'un point de vue technique, parce qu'il y a certains éléments géologiques, de patrimoine bâti, mais aussi avec une dimension sensible, puisque le paysage, c'est aussi ce que ça nous évoque, ce qu'on ressent en le regardant. Donc chacun peut en avoir une perception différente. Et puis de pouvoir suivre l'évolution de ces paysages avec des reconductions photographiques. Donc ça veut dire... à un laps de temps prédéfini, qui peut être d'une année ou plusieurs années, reprendre exactement la même photo pour voir quels sont les changements qui sont intervenus du fait de l'homme, du fait du changement climatique. Ça, c'est une chose qu'on constate de plus en plus, mais dont on n'a pas encore beaucoup de traces visuelles et tangibles. Donc, c'est un des projets de la future charte du PNR, effectivement, de rendre visible et de matérialiser les évolutions du paysage et parfois les non-évolutions qui peuvent être une bonne ou une mauvaise chose selon les contextes.
Et l'idée de cet observatoire photographique, ce serait de s'en servir comme support pour des actions ultérieures ?
Oui, exactement. En fait, un observatoire photographique... du paysage, c'est très intéressant, mais si c'est juste pour prendre des photos et les renouveler, À la limite, chacun peut le faire sur les paysages qui l'intéressent. L'idée, c'est qu'à partir de ces reconductions de photos, des constats qu'on en fait, des évolutions qu'on visualise, d'en tirer des conclusions et de se dire, voilà, sur tel secteur, il y a des enjeux parce que l'activité forestière a un impact, ou l'urbanisme a un impact, ou le réchauffement climatique. Donc comment on peut agir pour préserver cet espace, le restaurer ? Comment, d'un observatoire photographique, on peut prendre des décisions d'aménagement du territoire et avoir un projet. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas encore définies. L'observatoire, on va le construire dans les prochaines années avec les différents partenaires qui sont spécialistes, puisque, par exemple, les CAUE de Savoie et de Haute-Savoie ont déjà mis en place des observatoires photographiques. Donc on va très probablement travailler avec eux, aussi avec les citoyens qui souhaitent se mobiliser. Et ensuite, on va essayer de mettre en place des outils pour pouvoir mobiliser cet observatoire à l'avenir et en faire en fait un outil stratégique.
Sur l'accompagnement que peut proposer le parc sur la thématique de l'urbanisme auprès des communes, il y a une action que vous avez mise en place avec des étudiants. En quoi ça consiste ?
Oui, ça s'appelle l'atelier hors les murs. C'est une action qui est portée par un grand nombre de PNR en France. En fait, tous ceux qui souhaitent la porter pourraient la mettre en place. Et c'est accompagné par la Fédération des PNR de France. L'idée, c'est quand une collectivité a un projet à en mettre en place, qu'elle souhaite réfléchir, mais qu'elle n'a pas encore de bureau d'études ou d'architecte ou de paysagiste pour lui faire des propositions pour ce projet. On passe un appel à projet, un appel à candidature, et une école ou plusieurs écoles d'architecture, de paysagisme, mais aussi d'ingénieurs, pourquoi pas, en fonction du sujet du projet, donc peut répondre et va venir passer environ une semaine sur site et puis des temps de travail dans l'école pour faire une proposition comme un bureau d'études pourrait le faire à la commune avec, selon le nombre d'étudiants, on peut avoir différents scénarios. Et ensuite, la collectivité va pouvoir choisir de mettre en place une partie ou tout le projet qui aura été proposé. Et donc, c'est une initiative qui est bénéfique pour tout le monde parce que ça permet aux étudiants de se mettre en situation de travail réel, de venir s'immerger sur un territoire qui est différent du leur, puisqu'on a souvent coopéré avec l'école d'architecture de Nancy. Donc ça permet aux étudiants de découvrir des territoires différents de ceux qu'ils connaissent. Et inversement, ça permet aussi à la collectivité déjà de laisser place justement à l'expérimentation, à des visions un peu différentes de peut-être ce qu'on pourrait trouver dans des bureaux d'études qui sont habitués à travailler sur le territoire. Et puis ça permet aussi d'avoir des études qui sont un peu moins chères, puisque les étudiants font ça dans le cadre de leurs études, donc ne facturent pas forcément la prestation.
Et ça se passe comment ? C'est une commune qui fait appel au parc, ou sur une mission d'accompagnement du parc, elle identifie que ça pourrait être pertinent ?
Alors, c'est un appel à projet qui est publié tous les ans, plutôt par la Fédération des parcs. Et donc ensuite, chaque parc va avoir localement le rôle de relais. Donc si une commune l'a sollicité pour un projet, il va pouvoir dire, on est dans les clous pour proposer ce projet dans l'appel à candidature. Et à ce moment-là, ce sont aux écoles ou aux groupements d'écoles de se manifester pour répondre à cette candidature. Donc c'est le parc local qui va être le relais vers la fédération et ensuite vers les écoles, et qui pourra animer toute la démarche. C'est pas forcément à la collectivité de piloter les étudiants. Justement, le parc va avoir ce rôle d'accompagnement pour guider les étudiants et faire le lien avec la collectivité.
Et sur le parc du Massif des Bauges, on l'a déjà évoqué plusieurs fois pendant l'émission. On a parlé de l'ancienne charte et de la nouvelle charte parce qu'on est entre deux en ce moment. Concrètement, il va se passer quoi en termes d'évolution sur l'urbanisme et le paysage ? Il va y avoir une différence entre ce qui se faisait jusque-là et ce qui souhaite être mis en place ?
Oui, alors on est en révision de la charte depuis quelques années maintenant, puisque la précédente charte arrivait à son terme en 2019. Donc elle a été un petit peu prolongée pour laisser le temps de mettre en place la future charte, de faire ça proprement. Donc effectivement, il va y avoir des évolutions dans cette nouvelle charte. C'est un document qui est valable pour 15 ans. Et l'idée, c'est de faire le point sur tout ce qui a été fait pendant la précédente charte, d'en tirer des conclusions pour écrire la nouvelle charte, et aussi de prendre en compte les nouveaux enjeux qui ont pu émerger, notamment à l'échelle nationale, mais aussi très locale. Donc, en termes d'urbanisme et de paysage, alors on l'a déjà un petit peu évoqué sur le volet paysage, l'idée, ça va être... de toujours prendre en compte ces paysages, ça c'était déjà le cas dans la précédente charte, mais essayer de matérialiser un peu plus les choses pour que ce soit plus perceptible par tout le monde, que ce soit pas juste à l'œil, on voit des choses et on se dit, bon ça c'est mon paysage des Bauges depuis ma commune, mais c'est de le retranscrire dans des documents, donc ça passe par le biais de cet observatoire photographique, ça peut passer par le biais de plans paysages sur des secteurs, et ça va aussi passer par le plan de parc. Donc c'est un document qui est annexé à la charte et qui permet vraiment sur un plan de traduire les enjeux par des petites bulles, des étoiles, des choses qui disent voilà à tel endroit il y a tel enjeu et ça veut dire que dans la charte on va avoir des objectifs pour prendre en compte cet enjeu. Donc sur le paysage par exemple on pourra avoir des espaces urbains remarquables, des cônes de vue remarquables depuis un site où on a vraiment un panorama très intéressant. Tout ce genre de choses qui ensuite pourront être déclinées dans des projets ou peut-être dans des réglementations. Voilà. Sur le volet urbanisme, on va essayer de retraduire localement des objectifs de plus en plus forts de réduction de la consommation d'espace. Donc espace naturel, agricole, forestier. Tout ce qu'on appelle artificialisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fortement lié à l'urbanisme. Dans le massif des Bauges, pendant un temps, notamment sur les précédentes chartes, on a cherché à accueillir le mieux possible les personnes qui pouvaient venir s'installer, puisqu'on avait eu... Une régression démographique dans le massif, donc il a fallu faire revenir des gens sur le territoire pour y vivre, pour y travailler. Et maintenant, c'était déjà un peu le cas, mais ça va être de plus en plus fort, il faut essayer de rationaliser un peu tout ça, c'est-à-dire comment on continue d'accueillir ces personnes, comment on continue de donner des services aux gens qui habitent déjà sur place, de leur proposer aussi des emplois pour éviter qu'ils aient à faire de la route vers les Piémonts pour aller travailler chaque jour. Tout ça en consommant le moins possible d'espace naturel, agricole, etc. Voire même, à l'horizon 15 ans de la fin de la charte, en ne consommant plus d'espace. Donc pour ça, il y a tout un tas de petits outils qu'on peut mettre en place dans la conception des projets. Et donc ça va être un axe fort de la future charte. Et puis bien sûr, toujours cette question de l'expérimentation, de l'innovation dont on parlait, essayer des nouveaux modes d'habiter, de construire, fournir des services aux habitants pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin, soit dans leur commune, soit avec les autres communes qui sont autour, avec un système d'armature territoriale et de solidarité entre les communes du Massif des Bauges. Voilà pour les grandes lignes de la future charte et un petit peu les évolutions par rapport à la précédente.
Pour les personnes qui souhaiteraient aller un peu plus loin justement dans cette compréhension de l'urbanisme, de ces nouvelles chartes, comment on peut avoir les renseignements auprès du parc? Qui on contacte? Est-ce qu'il y a des documents à disposition? Comment ça se passe?
Alors, il y a un site internet du parc, dont l'adresse est www.parcdesbauges.com, sur lequel on retrouve toutes les informations sur les événements du parc, mais aussi sur les missions qu'il remplit et l'équipe qui le compose. Donc, sur ce site, vous pourrez trouver notamment mon adresse mail, mais que je vous redonne maintenant si vous avez des questions, des projets à soumettre... ce genre de choses, donc c'est r.girard, G-I-R-A-R-D, @parcdesbauges, tout attaché en minuscules, .com. rgirard@parcdesbauges.com. Voilà, et donc je suis votre porte d'entrée si jamais vous avez des questionnements. Et puis si je ne peux pas y répondre moi-même, je peux vous réorienter vers mes collègues puisqu'on travaille tous ensemble en transversalité. Donc parfois on a une question en se disant tiens, ça c'est de l'urbanisme, mais en fait on se rend compte que ça relève peut-être plus de l'agriculture ou de l'énergie. Et donc, on fait aussi le relais entre chargés de mission pour répondre au mieux à vos questions.
Si donc vous avez des questions sur ce qui relève de l'urbanisme, du paysage ou plus largement des actions du parc, on vous a donc donné tous les éléments. Et merci infiniment, Romane Gérard, d'être venue nous parler de ce qui pouvait sembler obscur pour beaucoup d'entre nous.
Merci Marion pour l'accueil et sûrement à très bientôt pour se reparler de l'urbanisme et du paysage.
Retrouvez toutes les émissions sur le parc naturel régional du Massif des Bauges sur www.radioalto.info à la rubrique Émissions des partenaires.